France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Dominique Valadier. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Comeau nous parlera de Swarm, la nouvelle série de Donald Glover. À 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier. La Maison, texte inédit de Julien Gracq, paru en librairie. Gwenaëlle Abolivier, directrice artistique et littéraire de La Maison en José Corti, nous en dira plus sur ce court roman. À 19h50, Affaires à suivre, direction ce soir l'Espagne, en compagnie de notre correspondant Henri de Laguerry. Le tout est réalisé par Alexandre Faugeron avec Noé Chaban et Alex Dang à la prise de son. Bonsoir Dominique Valadier.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir alors que vous jouez en ce moment Premier amour de Samuel Beckett, spectacle présenté comme une réalisation de Dominique Valadier à Alain Françon. Nous reviendrons sur ces termes tout à l'heure et reviendrons bien sûr sur ce spectacle, mais je profite de votre présence pour revenir aussi sur quelques moments importants de votre parcours, pour essayer de mieux comprendre comment vous pratiquez votre art. Dans votre enfance, adolescence, vous dites qu'en famille, vous aimiez bien parler des acteurs vus à la télévision, vus au cinéma, et que si vous avez commencé par faire de la danse, votre sœur aînée vous a entraîné vers le théâtre et que, à la fin de votre adolescence, vous avez intégré le conservatoire de théâtre de votre ville de Nice. Est-ce que vous vous êtes senti tout de suite chez vous, dans le monde du théâtre ?
Oui, c'est-à-dire que à partir du moment où on apprenait le théâtre au lycée, c'est-à-dire peut-être seconde, je crois, un truc comme ça, j'ai commencé à respirer à l'école, au lycée. C'est comme ça que ça a commencé. C'est la forme même, c'est-à-dire des gens qui parlent, de l'écriture qui se confronte comme ça, des idées qui se confrontent. Et d'un seul coup, j'ai été d'une certaine manière repêchée par cette activité, par cette matière-là, qui était une matière un peu parallèle, mais qui pour moi était une matière principale.
Mais à quel moment vous vous êtes dit que ça pourrait être un métier ?
C'est-à-dire que j'ai été passionnée immédiatement. C'est même pas que je me suis dit ça pourrait être un métier, parce que je pense pas que ce soit un métier non plus. C'est que à partir du moment où j'ai fait du théâtre, où j'ai eu ce professeur à Nice qui s'appelait Victor Sayac, qui était un homme d'un certain âge, qui était assez âgé, était un homme merveilleux, un très bon prof, et un homme charmant, plein d'humour, enfin formidable. Et moi, je ne vivais que pour aller à ce cours-là. Donc j'ai commencé le théâtre et, comme ça, et j'ai toujours fait du théâtre comme ça. En fait, je n'ai pas eu de moment où je suis devenue professionnelle.
Bon, vous êtes quand même rentré au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Limite d'âge pour candidater, mais ça va, vous passez. En première année, vous avez pour professeur Marcel Bluval, on en a souvent parlé ici, et encore tout récemment, avec Ariane Ascarine, aussi avec Jean-Pierre Darroussin, avec Catherine Fro, qui ont chanté ses louanges. Et puis, deuxième année, la classe d'Antoine Vitesse. Alors lui aussi, nombre de nos invités, évidemment, nous en ont parlé, que ce soit Valérie Drévin, Pascal Rambert ou Christian Benedetti. Il a été votre professeur, Dominique Valadier, puis il vous a engagé... Si on croit les dates, vous deviez être encore en troisième année du conservatoire, oui. Hein, pour Iphigénie Hôtel, la pièce de Michel Vinavert. Et l'année suivante, en 78, vous participez à sa tétralogie moliéresque, L'école des femmes, Tartuffe, Don Juan, le misanthrope. D'abord joué au Festival d'Avignon, puis au Festival d'automne, reprise au Nouveau Théâtre de Nice, chez vous. Avant de parler d'Antoine Vitesse, écoutez-le justement durant ce Festival d'Avignon 78.
Les personnages ne sont pas interchangeables. C'est les acteurs qui peuvent changer, s'emparer des personnages, et évidemment en s'emparant de personnages, les transformer. Ce sont des variations sur les fantasmes de Molière, à mon avis. Et les acteurs, évidemment, passent... par exemple, le même acteur peut passer du rôle de Don Juan à un rôle de petit marquis dans Le Misanthrope. c'est à la fois par hasard et pas par hasard, parce qu'il y a quelque chose du petit marquis dans Don Juan, finalement. Quelque chose de Don Juan dans le petit marquis. Au fond, nous nous emparons de l'œuvre de Molière et nous faisons là-dessus un travail en quelque sorte musical. Nous faisons des variations sur les thèmes de Molière. Ce qui est la seule manière, finalement, de le jouer, en fait. On ne joue jamais qu'en faisant des variations.
Antoine Vitez, j'imagine, Dominique Valadier, qu'il faudrait des heures pour que vous nous disiez ce qu'il vous a apporté. Alors, je vous demande peut-être un très difficile exercice de synthèse que je pourrais formuler ainsi. Qu'est-ce qui vous sert encore aujourd'hui dans ce que vous avez appris avec lui ?
La radicalité.
C'est pas mal.
La radicalité. La force interprétative nette et sans détour et la construction méthodique des thèmes dans les œuvres que j'ai bien sûr poursuivi avec Alain Françon. Et la rencontre, notamment sur les, je n'ai pas fait les pièces de guerre. Alain me l'avait proposé, Edouard puis Bond. Je ne l'ai pas fait. Et c'est en voyant mes camarades et en les voyant jouer et me mettant au courant de la manière dont ils avaient travaillé et que j'ai commencé à lire les écrits théoriques d'Edouard Bond et que j'ai commencé à travailler là-dessus et je me suis passionnée pour ça, pour l'organisation du jeu décrite d'une manière extrêmement précise par Edouard Bond et ça me sert toujours.
Alors d'Edouard Bond et d'Alain Françon, bien sûr, on va en parler dans quelques instants, mais je reste un moment encore sur Vitez, puisque vous avez vous-même aussi, Dominique Valadier, longuement enseigné le théâtre. Qu'est-ce que vous avez essayé de transmettre, vous, à vos élèves ?
J'étais très impressionnée par la proposition de Marcel Bozonnet. J'avais fait un stage avant, j'avais commencé à travailler, je ne sais pas si j'avais pas joint quelqu'un pour en laissant entendre que j'aimerais parler de théâtre avec des gens. Je n'en savais rien du tout puisque on invente tout. Mais après, ce que j'ai appris petit à petit en travaillant longtemps, c'est que j'ai vu qu'en écoutant les acteurs longtemps, en produisant une forme d'écoute sans bord, là, l'acteur commence à se calmer et il commence à avoir le temps lent dans le travail. C'est-à-dire qu'il y a une exécution très rapide, mais il y a un temps très lent. Mais ça peut aider d'avoir quelqu'un qui sait regarder longtemps. Et laisser l'acteur se tromper, le revenir, changer, voilà, des choses comme ça. Je trouvais beaucoup appris par le regard. Je trouvais ça... la confiance qui s'instaure entre celui qui joue et celui qui regarde, et finalement se laisser aller à une sincérité modeste, de comment on pourrait faire mieux, ou pourquoi cette chose-là paraît non juste, déplacée, pourquoi il faudrait changer, ou des choses comme ça, apprendre à critiquer et à modifier le jeu. Et à le laisser surtout en mode de modification tout le temps, permanente.
Pour revenir à votre parcours, et on va arriver et à Alain Françon et à Edouard Bond, mais un instant encore avec Antoine Vitez, il y a évidemment plusieurs spectacles importants avec lui. Peut-être s'arrêter sur deux d'entre eux, si vous le voulez bien. Vous jouez pour la première fois Tchekhov sous sa direction, le rôle de Macha dans La Mouette en 84, et vous dites... dans un entretien, que c'est là que vous avez trouvé votre voix. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est des modifications liées à des tout petits, des petites observations sur soi-même et puis des critiques. Des gens qui disent c'est pas ta voix ou c'est pas naturel. Donc le naturel, évidemment, il n'est pas question de ça au théâtre. C'est un mot qui est un peu dangereux. Bon, ça peut être très, très bien le naturel, pas forcément, enfin, bon, c'est compliqué. Mais les gens qui parlaient de ma voix, souvent, je disais, mais c'est ta voix, on ne te reconnaît pas et tout ça. Et, sur Macha, il y a eu un mélange entre ce travail, c'est-à-dire de laisser tomber tout artifice vocal et au fond de juste dépasser la rampe au niveau du volume, mais pas plus. Et de pas donc de concentrer l'énergie sur la présence, le sens, qui est là un personnage très jeune et en crise, sourde, et donc dont les paroles sont... Le texte n'est pas long et ce n'est pas un texte à éclat. Et d'aller au plus près du médium, de mon médium à moi, et de ne pas de laisser la phrase à peu près horizontale, et les unes après les autres, comme ça. Et à partir de ce personnage-là, j'ai changé de façon de faire. Je me suis aussi servi de la voix pour garder mon identité tout le temps, pour pas sortir de moi-même, rester bien, parce que je pense que les vibrations de chacun correspondent à quelque chose qui passe et qui se fait entendre pour les auditeurs, ou pour quand on parle avec des amis aussi, on est soi-même en général.
Mais ce que vous dites, Dominique Valadier, me fait penser à quelque chose que me disait Isabelle Huppert sur vous il y a quelque temps. On parlait de la pièce Qui a peur de Virginia Woolf que vous jouiez il y a quelques années. Elle était fascinée, impressionnée par cette façon justement que vous aviez de ne pas porter terriblement la voix, mais par contre de faire en sorte qu'on entende tellement mieux avec quelqu'un qui forcerait. Ça, c'est quelque chose... mais qui se joue dans un détail infime.
C'est aussi faire connaissance avec l'instrument vocal, avec l'instrument théâtral, et savoir apprendre à connaître cet instrument et à savoir les salles dans lesquelles on joue. Ça dépend beaucoup de l'acoustique, de l'instrument lui-même, quel est l'instrument dans lequel on joue, surtout quand on est en tournée ou on joue dans des théâtres différents. Donc les voix s'accordent chaque fois différemment. Et on apprend d'une certaine façon à accorder, à connaître les instruments qu'on rencontre au fil des voyages.
C'est très impressionnant, toujours. Et je voulais citer un autre spectacle avec Antoine Vitesse, c'était La Mère Ubu, dans Ubu Roi de Jarry. Parce que là, c'est aussi une autre facette de Dominique Valadier. Vous souriez à cette évocation, parce que je crois que vous êtes énormément amusé, mais et le public donc, parce que vous êtes une grande comique aussi.
Je ne sais pas si c'est une grande comique, mais c'est-à-dire que l'idée de Vitesse, qui était de prendre des gens du pouvoir lambda, bien ancrés dans leur temps, et de jouer ça avec mon cher Jean-Yves Châtelet, qui jouait Père Ubu, et en personne de ce monde politique... bien de chez nous, c'était vraiment très croustillant de jouer ce texte. Et ça apportait beaucoup au texte. Ça apportait beaucoup au côté croustillant de ce texte, et vraiment extrêmement ironique et qui portait beaucoup de puissance, de critique, quoi. Donc la mise en scène et le décor de Cocos étaient quelque chose d'extraordinaire. Il avait reproduit le palais de Chaillot avec les grandes baies vitrées. C'était merveilleux.
Un plaisir particulier.
J'ai un souvenir formidable. Ouais. Les costumes de Cocos créés par Mine Baralvergez, on était en robe de lamé, extrêmement près du corps. Enfin, c'était le contraire de la chose ubuesque.
On va évidemment parler de votre rencontre avec le metteur en scène Alain Françon, au milieu des années 80, une collaboration qui se poursuit toujours aujourd'hui. Donc, on va parler de votre travail ensemble en évoquant Premier Amour, mais je voudrais évoquer les auteurs. Vous avez travaillé ensemble et vous avez déjà commencé à le faire avec Edouard Bond, dont vous avez créé et joué quantité de pièces en France. Bond, auteur, metteur en scène qui ausculte, on va dire, de façon... très précise la façon dont nous pouvons tomber dans l'inhumanité, dans des pièces qui, un théâtre souvent qui est un monde sans horizon, souvent soumis à une force militaire, dictatoriale. Avant de parler de lui, là encore, on va l'écouter. Edouard Bond, c'était sur France Culture en 2006.
That's why two actors don't play the character. Je dis souvent aux acteurs, ne jouez pas le personnage.
I say, what else can I play?
Alors ils disent, mais qu'est-ce que je peux jouer d'autre?
And I say, well, why do you want to play the character?
Alors je dis, mais pourquoi voulez-vous jouer le personnage?
And they say, if they're nice.
Et ils disent, quand ils sont aimables,
it's such a nice character.
Mais le personnage est si bien et si fort.
I said, yes, I wrote it.
Et Edouard répond, bah, bien sûr, je l'ai écrit.
But I didn't notice I was writing it.
Mais je n'avais pas remarqué que je l'écrivais.
I was dealing with a situation.
Je me battais avec une situation.
And if you want to play the character, you must deal with the situation.
Et si
first.
Vous voulez jouer le personnage, c'est d'abord la situation que vous devez aborder.
And I hate this idea of a director being in charge of the ensemble.
Et je déteste cette idée d'un metteur en scène à la tête d'un ensemble.
And deciding everything.
Et qui décide de tout.
And then telling the actors what to do.
Et qui dit après aux acteurs quoi faire.
I think this creates very, very bad theater.
Je crois que vraiment ça engendre un théâtre néfaste.
Theater can only come out of the revelations that proceed from the interaction of the actors.
Le théâtre ne peut naître que des interactions, de ce qui procède des interactions entre les acteurs, les comédiens.
Commentaire, Dominique Valadier.
Oui, c'est tout à fait ça. Le danger du personnage, de s'embarquer sur un personnage et de créer des suites infinies sur le caractère d'un personnage, embrouille tout et justement fait rater toutes les situations et tout ce à quoi est vouée la pièce, c'est-à-dire de changer le monde. Et de c'est des coups de poing, hein, en fait, les pièces de théâtre. C'est pas juste pour passer le temps. C'est aussi, c'est pour ça que les ministères de la culture doivent soutenir cette parole, parce que elle est vraiment capitale pour la démocratie. C'est quand même très important, quoi.
Jouer les situations.
Bien sûr. Les situations et le sens profond de le pourquoi on est là. La qualité de la présence, elle vient de ça, de savoir pourquoi on est là.
Mais alors, pourquoi on est là? Quand on est là dans la salle et qu'on vous voit, j'ai eu la chance de voir un certain nombre de ces pièces d'Edouard Bond, notamment dans lesquelles vous jouiez, Dominique Valadier, on se dit quand même qu'on ne doit pas ressortir tout à fait indemne de ce travail-là. Comment est-ce qu'il y a une part de vous qui doit rester dans les murs de théâtre pour que votre vie à vous puisse continuer?
Il y a sur le plan physique et athlétique, enfin sur le plan du corps, des endroits limites que j'ai joués dans Bond. Dans le café, par exemple. L'arrivée dans le café, pour la trouver, c'est une femme qui arrive et qui se cache dans la forêt, qui cache sa fille dans la forêt. Donc c'est un lien fille-mère. Complètement serré, indéfectible, limite. Et elle surgit de la coulisse et dit aux deux types, sortez de là. Donc il fallait dire ce tort avant que je trouve le sort, enfin que Alain me pousse attende. C'est ça qu'il fait, en fait. Il attend. Il attend du « ouais ». Bon, et à un moment donné, bon, j'ai jailli et j'ai fait un sorti de là bestial. Hein. Mais pas « je vais le faire bestial ». C'était une limite. Mais après, pour reproduire ça tous les soirs, c'est vrai que c'est vrai que j'en ai un souvenir. J'ai un souvenir de cette pièce avec ce personnage-là dans ces endroits-là limite, extrêmement fort d'avoir les représentations. Je les ai toutes senties, quoi. Le nombre de représentations, surtout à la colline avec la grande salle, et tout ça, c'était extrêmement impressionnant.
Alors justement, on a bien besoin maintenant de découvrir votre choix musical, Dominique Valadier, avant de continuer, qui s'est porté sur une chanson de Françoise Hardy, Le Large. Pourquoi ce choix ?
Je l'aime beaucoup, Françoise Hardy.
C'est une raison suffisante.
Voilà, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son écriture et j'aime beaucoup cette chanson. J'aime beaucoup sa pudeur et sa réserve. C'est quelqu'un qui me plaît.
On écoute. Le large.
Aucune histoire banale gravée dans ma mémoire. Aucun bateau pirate ne prendra le pouvoir. Aucune étoile filante me laissera dans le noir. Aucun trac, aucun. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucune larme, aucune ne viendra m'étrangler. Aucun nuage de brume dans mes yeux délavés. Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier. Aucun quartier de lune, aucun et demain. Tout ira bien, tout sera loin. Là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi la main, là au final, quand je prendrai le large. Aucun autre décor, aucun autre que toi. Aucune clé à bord, aucune chance pour moi. Et demain, tout ira bien, tout sera loin, là au final, quand je prendrai le large, tout sera loin, donne-moi. Aucun requin, aucun air triste, aucun regret, aucun séisme, aucune langue de bois.
Françoise Hardy, Le Large, beau choix musical de Dominique Valadier ce soir. Et on va parler de cette actualité avec ce Premier Amour, texte non théâtral de Samuel Beckett. Spectacle qui est donc présenté comme une réalisation de Dominique Valadier et Alain Françon. Et va donc permettre d'en savoir peut-être un peu plus sur votre façon de travailler ensemble. Avant cela, encore une fois, on va écouter Alain Françon 96 sur France Culture, qui dans cet extrait va parler d'une certaine Dominique, de vous donc.
Il y a des gens qui sont tout à fait constituants, c'est-à-dire il y a des acteurs qui sont constituants dans un projet, c'est-à-dire qu'immédiatement, même si on a à peu près en trois mots dit ce qu'il faudrait faire ou ce qu'on allait faire ou ce qui serait bien de faire, il y a des gens qui se mettent à parler et puis ça n'éclaire rien. Et puis il y a des gens qui commencent à jouer et puis ça éclaire, c'est-à-dire que ça permet d'aller plus loin et de dire oui, non seulement c'est ça, mais en plus c'est par rapport à ce que vous venez de faire, c'est encore là qu'il faut aller, quoi. Alors, c'est très marrant parce que là, par exemple, dans cette distribution, il y a des jeunes gens du conservatoire qui sont sortis ou qui sont encore en troisième année. La liberté et l'immédiateté qu'ils ont et l'instantanéité qu'ils ont, je ne sais pas, quand je dis instant, c'est parce qu'ils sont toujours dans le présent quand ils parlent. On dirait qu'il suffit que... C'est Lacan qui disait ça, le présent, c'est quand je parle. Bon, bah, eux, ils sont comme ça, ils sont là. Et Dominique est là, après 25 ans, 30 ans, je ne sais plus combien, je ne vais pas la vieillir, mais elle a cette faculté-là, c'est-à-dire elle a cette disponibilité-là, cette manière de prendre la chose toujours d'une manière naïve, comme si c'était du jeu, jouer, de s'amuser. La première fois que j'ai travaillé avec elle, un jour comme ça, c'était dans l'Oise, et je la voyais se marrer au fond, et je suis allé la voir, j'ai arrêté de répéter, je lui ai demandé si elle se foutait de ma gueule, parce que je ne comprenais pas pourquoi elle riait tout le temps comme ça. Et elle, la réponse était incroyable, la réponse a été, mais non, parce que moi ça me fait plaisir de répéter, je me sens bien, donc j'ai le sourire. Et ça me paraît très clair, ça, comme disposition au travail.
Voilà qui est clair, prendre du plaisir, sourire, voire rire en répétition. Qu'est-ce qui vous procure ce plaisir-là, Dominique Valadier ?
Ça, je ne peux pas vous le dire, c'est vrai, ça c'est vrai, c'est toujours comme ça. C'est organique, c'est le jeu et évidemment le plaisir de la construction, le plaisir de la rapidité, l'agilité de la créative. Il faut quand même aller relativement vite pour pouvoir passer à autre chose. Mais en même temps, il faut enregistrer ce qu'on fait et il faut être capable de le refaire. Donc c'est du collage sans arrêt avec des choses. Puis après, il faut en enlever parce qu'il y a du faux, après on corrige. Tout ça procure, oui, une forme de... C'est très jouissif, c'est vrai. C'est très j'ai toujours beaucoup ri en répétant, toujours. Je ris beaucoup quand je répète, j'adore regarder mes partenaires et ce qui me fait rire, c'est quand on se lâche, quoi. Parce que quand on n'a plus que le texte, alors il y a une espèce de c'est comme quand si on apprenait à marcher, quoi. Et ça reste toujours un plaisir merveilleux. La troupe, les partenaires, la connaissance qu'on a, ce qu'on dit pas, bon, c'est pas pareil sur le plateau et dehors. Il y a des secrets, il y a des. J'aime la troupe aussi. Je crois que je l'ai depuis que je fais du théâtre. On peut pas être insensible à ça. À cette joie des acteurs.
Bon, alors là, vous êtes seul en scène, pour Premier Amour. Là, pas de troupe, pas de partenaire.
Oui, c'est vrai.
Court texte, donc écrit par Samuel Beckett en 1946, qui est un monologue d'un homme qui va nous raconter un peu de son histoire, qui vit dans la marge, qui a été chassé de la maison familiale après la mort de son père, qui vit dans une grande précarité, qui a ses habitudes, son banc sur lequel il va dormir jusqu'à ce qu'une femme s'y asseye à son tour. Bon, ça c'est son histoire, c'est leur histoire qu'ils nous racontent. Résumé très sommaire, mais c'est comme un point de départ. Quel a été votre point de départ à vous pour porter ce texte à la scène ?
Alors, c'est une lecture, hein, parce que ça reste une...
Bon, c'est plus qu'une lecture, Dominique Valadier.
Oui, parce que ça fait un petit moment qu'on fait ces lectures, donc au bout d'un moment, ça s'inscrit bien. Quelle est la question ?
Quel est le point de départ ? Pourquoi monter ce texte et jouer ce texte aujourd'hui ?
Nous l'avons commencé à faire ça à Roussillon, à faire ces lectures. Ça fait un moment qu'on était en compagnie de ce texte. Et puis... on a décidé d'essayer de continuer dans cette même veine de lecture, mais effectivement, il y a des moments où le texte se dit comme ça, parce que le texte c'est su par lui-même, quoi, facilement. Et, mais il y a toujours des reprises aussi, il y a quand même des prompteurs sur le plateau, même si on ne les voit pas trop, mais il y en a.
Lecture, mais... On parlait tout à l'heure du personnage, des situations. Là, on est dans un cas particulier d'un seul en scène, d'un monologue, d'un récit. Quelle est la situation, alors, pour reprendre le mot employé tout à l'heure ?
Ça a l'air d'être une situation. Ça a l'air d'être une situation. Ça a l'air d'être quelqu'un, mais ça parle quand même beaucoup, je crois, du public. C'est-à-dire que ça parle du monde. Et mais ça paraît parler de soi, ça paraît, mais en réalité, c'est comme si c'était un miroir, mais terrifiant, enfin, pour le public, ce corps parlant vient raconter quelque chose, vient se montrer, et je pense que les gens se voient dans ce corps parlant. C'est une question de ça aussi, c'est de la construction entre les différents morceaux, c'est-à-dire le jeune homme est à la maison, puis il se fait expulser de la maison, puis il se retrouve jeté dehors, il va sur un banc, puis il rencontre une femme, puis après avec la femme, une fois elle a un nom, une fois elle a un autre nom, une fois il y a tout un rêve qui se construit autour, c'est fait de réalité et de choses complètement qui prolifèrent comme ça dans une espèce d'inventivité dans un, comme un rêve aussi. Et finalement, dans l'expérience même du travail, ce que je ressens, c'est comme si le texte était un cri de révolte et un insurgé. C'est écrit en 46. Je peux pas me défaire de ça. Ça me parvient pour l'instant à chaque endroit comme quelque chose qui dépasse le possible. Et je pense que c'est très quand même lié à la date de l'écriture.
On entend la voix d'André Marcon, m'a-t-il semblé, au début du spectacle, quand la salle est plongée dans le noir. Je me demandais si c'était un extrait de l'image.
Je pense l'innommable, peut-être.
L'innommable,
me semble.
Alors, j'allais vous demander pourquoi ce choix.
La forme sur le dos, la figuration scénique et les mouvements sont absolument imaginés par Alain. Et la forme était là et le texte qui est un le texte de l'homme sans l'homme vide. Que dit Marcon, ça vient de ça, de ça aide à faire le passage de la femme qui parle avec ce je masculin, J.E. Et par exemple, passer, dire ce je masculin n'est pas, il n'y a pas besoin de déplacement.
C'est pas une question hein, quand on voit le spectacle.
C'est le public qui le fait.
Oui.
C'est le public.
La question ne se pose
non.
Pas du tout.
Non.
Mon sens. Bah ça, c'est
merveilleux. C'est naturel. Je pense que c'est vrai, ça. Un homme qui prendrait une voix de femme, ça serait pareil. Ça serait ça ne passe pas par de l'imitation ou par de voilà. C'est vrai.
Puis un texte comme celui-ci, Dominique Grenadier, c'est aussi comme si on avait toutes les facettes du jeu parce qu'il y a du drame, il y a de la comédie, il y a de l'absurde, il y a du réalisme, il y a de la poésie, il y a beaucoup de ruptures de ton, beaucoup de digressions aussi. Alors, comment vous le traversez, vous, ce spectacle, physiquement et émotionnellement ?
Le temps du spectacle et le retard, retardons. Et pendant qu'on dit retardons, à un moment donné, il y a déjà eu quelques pages quand même qui ont défilé et il arrive à allonger le temps restant, c'est-à-dire que c'est le temps de latence humaine que je pense nous connaissons. Mmh. Qu'il arrive j'ai l'impression qu'il parvient à faire passer, à faire entendre. Les gens se reconnaissent.
Mais vous, sur scène ?
Je ne sais plus, c'est-à-dire, vous voulez dire...
Cette traversée-là, vous la vivez comment, vous ?
Comme je suis envahie. Et je ressens c'est fugitif parce que ça dure une heure, mais il n'y a plus de temps, il n'y a plus de... par exemple, les adresses ironiques et cinglantes, mais où les gens explosent de rire, c'est dit et c'est oublié, c'est un tour de... C'est du grand art, quoi. C'est du grand art, vraiment.
Je confirme, du grand art porté par une très grande actrice. Ça c'est moi qui le dis. Je ne vous demande pas de commentaires, Dominique Valadier. Je vous plaisante. Je rappelle que donc, Premier amour de Samuel Beckett se joue jusqu'au 19 avril à la Scala à Paris. Le texte, bien sûr, publié aux éditions de Minuit. Je voudrais surtout aussi signaler une journée de dialogue avec Alain Françon, qui aura lieu le mardi 11 avril, alors de 9h à 18h, on aura du Françon matin, midi et donc soir, toujours à la Scala pour fêter le 50e anniversaire de sa première mise en scène. Si j'ai bien compté, je crois que vous en avez fait 37 ou 38 ensemble, ou 34, enfin bon, j'essaie de faire le compte, hein, mais on en parlera certainement dans cette journée du 11 avril. Très riche programme à découvrir sur le site internet de la Scala. Il me reste à vous remercier, Dominique Valadier.
Merci à vous.
D'avoir été notre invité.
Merci beaucoup.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Bonsoir Lucille Comeau.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir dans Affaires critiques, vous nous parlez de Swarm, la nouvelle série de Donald Glover.
Oui, une série co-signée par Janine Neighbors et Donald Glover, à qui on devait la géniale série Atlanta, dont j'ai parlé ici il y a quelques semaines. 4 saisons, des épisodes très hétérogènes dans un dispositif étrange qui creusait avec style dans le trauma de la communauté noire américaine. Alors Swarm semble en dériver d'une certaine manière dans une continuité qui en fait à la fois l'intérêt et sans doute la limite. Alors Swarm, ça veut dire essaim. Cette essaim, c'est une communauté à laquelle appartient l'héroïne, Andrea, dite Dre. Elle a une vingtaine d'années, elle est une fan absolue de Nyjah, star de la chanson, double quasi transparent de Beyoncé, celle qu'on appelle aussi Queen Bee, hein, la reine des abeilles. Alors Dre vit avec une colocataire de son âge, dont elle a l'air de dépendre entièrement, à la fois sur le plan financier et affectif, car elle n'est pas exactement une jeune femme comme les autres. Étrange, secrète, illuminée, obsessionnelle, violente, on le découvre assez tôt, surtout si on ose dire du mal de son idole. C'est l'histoire d'une sortie de route spectaculaire en 7 épisodes, une genèse de série B, pendant laquelle Dre devient un monstre. 7 moments d'errance et de fuite entre le Texas et la Géorgie, pendant lesquels, sous diverses identités, elle travaille dans un strip club, se trouve enrôlée dans une espèce de sororité en marge d'un festival, retourne dans la famille d'accueil qu'il a élevée ou tombe amoureuse d'une jeune étudiante. 7 épisodes assez chic, hein, la mise en scène est léchée, l'image très stylisée, une ou deux petites surprises de luxe au casting, notamment la chanteuse Billie Eilish qui interprète une espèce de gourou assez effrayante. Swarm se coule résolument dans le genre du film d'horreur avec des scènes hyper crues, des massacres à la poêle à frire, des os qui craquent, du sang qui gicle, des corps à faire disparaître, le tout avec une dose mesurée de parodie et de burlesque et au service d'une réflexion de fond sur l'identité noire aux États-Unis.
Ce qui était déjà une mécanique à l'œuvre dans Atlanta.
Oui, plusieurs épisodes d'Atlanta, hein, dont certains ont fonctionné incarnés comme des unitaires lorgnaient résolument vers le genre horrifique et la possibilité psychopathique était déjà omniprésente. L'obsession et le trauma, c'était plus que des motifs, c'était de véritables formes ou pensées, une espèce d'impossibilité de l'identité noire. C'était passionnant dans Atlanta parce que précisément les genres alternaient. Atlanta n'était pas un objet rond, continu, mais quelque chose de totalement difforme. Et dans cette discontinuité se fondait paradoxalement l'efficacité du propos politique. Alors à côté, Swarm paraît un peu simple, voire même, et c'est dommage, paraît aplatir ou affadir la radicalité d'Atlanta. Par exemple, cet épisode où Dre se retrouve comme piégé dans un culte de jeunes bourgeoises blanches qui mangent du quinoa et font de la méditation, c'est tout à fait le genre de structure ou de motif qu'on pouvait voir dans Atlanta, mais c'était beaucoup plus fin. Là, c'est un peu les gros sabots de l'horreur, hein. Les personnages sont beaucoup plus caricaturaux et la narration plus classique et la réflexion, du coup, plus basique sur cette histoire d'obsession pour une star de la pop culture. La cruauté finit par lasser, de même que les motifs morbides, celles des insectes grouillants et bourdonnants par exemple, sont des métaphores trop visibles d'un pourrissement qui perd de sa réalité dans le cliché. Alors demeurent quelques moments de trouble bienvenus, par exemple dans un épisode qui prend la forme d'un vrai faux documentaire sur l'affaire en question, où on suit une détective persuadée d'avoir affaire à une serial killeuse noire. Demeure surtout, au-delà du personnage principal un peu décevant, la performance de son interprète, Dominique Fishback, découverte pour beaucoup dans la série The Deuce de David Simon, où elle jouait une jeune prostituée. C'est un corps changeant, à la fois pato et élégant, féminin et masculin, adulte et enfantin, beau et laid, un visage totalement versatile, une apparition qui semble sans cesse impossible à maîtriser, qui émeut et inquiète profondément bien au-delà des codes du film d'horreur. Finalement, tout l'intérêt de Swarm repose sur elle, reproduisant chez le spectateur l'effet de fascination décrit par la série. En fait, on se trouve obsédé par cette figure un peu de la même manière qu'elle-même est obsédée par son idole.
Swarm, la nouvelle série de Donald Glover, disponible sur Prime Video. Merci Lucille Como. Affaire en cours avec vous, Marie Sorbier, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Un texte inédit de Julien Gracq va paraître cette semaine aux éditions José Corti.
Oui, et c'est un événement littéraire, probablement écrit entre 1946 et 1950, soit juste avant son prix Goncourt en 1951, avec Le Rivage des Sirtes. Ce court roman, intitulé La Maison, est en fait une scène de fascination pour une maison, justement, qu'il voit quotidiennement depuis la fenêtre d'un bus qui traverse la campagne pendant l'occupation. L'éditeur, Maël Guesdon, précise que ce texte ne fait pas partie des 29 cahiers dont Gracq a interdit la publication jusqu'en 2027. Je suis allée rencontrer Gwenaëlle Abolivier pour qu'elle nous en dise plus sur ce nouveau texte inédit de Julien Gracq. Gwenaëlle Abolivier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice artistique et littéraire, autrice associée à la maison Julien Gracq. À la lecture de ce texte, est-ce que vous avez retrouvé la grammaire et le style si particulier de Julien Gracq ?
Ah, tout à fait. On est dans quelque chose de très évanescent, de très onirique en fait. Hein. C'est ce qui fait réellement la caractéristique des fictions. On retrouve l'ambiance du balcon en forêt, du château d'Argol. Le Rivage des Sirtes, superbe roman aussi, qui est assez énigmatique. Il arrive là, dans ce court texte, en fait, à recréer ce climat d'étrangeté, de mystère, qui est très propre, en fait, hein, à l'écriture de Gracq.
Pourtant, on a l'impression que cette rêverie ou cette déambulation se passe dans un univers très quotidien. On lit notamment dans la postface que cette maison dont il parle, c'est en effet une maison qu'il devait voir dans ses trajets pour aller travailler.
Oui, il semblerait justement qu'il ait écrit ce texte hein, dans la continuité des années où il a enseigné entre 1941 et 42 à Angers. Il faisait effectivement ce va-et-vient en car entre donc l'amont du fleuve, de la Loire, pour revenir sur Varade, Saint-Florent-le-Vieil. Alors c'est vrai que c'est très caractéristique aussi ça, c'est-à-dire que son écriture prend ses sources ou ses racines dans du réel. Il nous raconte ce trajet et petit à petit, il se glisse dans le rêve. Il y a toujours ce va-et-vient en fait entre le réel et l'imaginaire chez lui, qui se nourrit aussi de la mémoire, du souvenir, du songe. Tout s'entremêle avec toujours aussi des caractéristiques ou bien des petites balises culturelles. Là, dans le texte, il fait une référence au déjeuner sur l'herbe. Il y a ce chant comme ça aussi, ce chant de cette femme qui monte comme ça dans la forêt. C'est aussi très caractéristique de son amour pour l'opéra, le chant lyrique. Il y a ces références-là, c'est très gracquien finalement.
C'est un roman, on l'a dit, mais c'est un roman qui est très court et qui pourrait aussi s'apparenter à la nouvelle. Est-ce que cette forme a été peut-être un obstacle à la non-publication de ce texte du vivant de l'auteur ?
Alors, c'est vrai que ce sont des questions plus à poser à Maëlle Guédon et à Marie de Quatre-Barbes, hein, qui viennent de reprendre tous deux la maison José Corti. Cette maison créée par José Corti, hein, 1938, quand Julien Gracq leur propose justement le château d'Argolles. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'avec Bernil Boyle, ils ont choisi d'éditer la maison, puisque c'est vraiment ce clin d'œil à la passation de la maison Corti. Alors, c'est vrai qu'il y a ces romans assez conséquents que l'on connaît, ces grandes fictions, ces grands rêves, on peut dire, et puis ces parutions qui sont plus fragmentaires, hein, dans les lettrines, dans le carnet du grand chemin, des textes assez ramassés sur eux-mêmes, mais beaucoup plus courts finalement que la nouvelle, à proprement parler. Moi, lorsque je lis La Maison, j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un début de quelque chose. On a envie d'inventer la suite, en tout cas, on a envie de la lire.
Alors le livre qui va paraître se divise en trois. On a le texte, édité de façon assez classique, et puis la reproduction d'un manuscrit annoté, et encore une autre production d'un manuscrit, celui-ci sans rature. Que ça apporte, selon vous, pour vous, lectrice de Gracq, de voir sa calligraphie, son écriture, ses ratures? Est-ce qu'il y a une émotion particulière?
C'est toujours une émotion de découvrir des manuscrits. Lui-même portait un intérêt, on va dire, alors... pour la valeur, en fin de compte, hein, la valeur financière, disait-il. Il y a certains de ses manuscrits qui ont disparu, hein, ceux qui ont été détruits d'ailleurs par sa mère et sa sœur, hein, sur sa volonté pendant la Seconde Guerre. Moi, je trouve ça émouvant, mais plus dans la graphie, dans la partie artistique que ça suppose. Alors, je ne vais pas dévoiler la fin de la nouvelle, mais j'ai vraiment l'impression de voir une chevelure textuelle, une chevelure de mots. Il y a quelque chose de très émouvant et de sensuel aussi dans la page et dans toute cette architecture, hein, sur la page. L'architecture liée à la maison, puisque lorsqu'on navigue aussi dans ce texte, on a aussi l'impression de naviguer dans son imaginaire et dans son inconscient, à Julien Gracq.
Alors, d'une maison à une autre, vous dirigez en ce moment la maison Julien Gracq. Alors, à quoi correspond cette maison et comment les écrivains d'aujourd'hui y sont-ils accueillis?
Oui, alors Julien Gracq va y vivre jusqu'en 2007, hein, à la date de son décès. Après, elle va se transformer en résidence d'écriture. En 2023, là, on fête les 10 ans de résidence. Donc, c'est une maison qui a accueilli énormément d'auteurs, de poètes. Alors, c'est une maison ouverte à la création, à l'écriture et à l'écriture contemporaine. On y organise des rencontres, hein, des rencontres littéraires, des lectures à voix haute. On a organisé au mois de novembre dernier un colloque sur les liens entre Julien Gracq et Jules Verne, qui était vraiment son primitif à lui, en lien avec les Beaux-Arts d'Angers. Et là, je suis en train de préparer Les Préférences, ce grand festival en itinérance qui a lieu tous les deux ans, qui commence à Nantes et qui se prolonge comme ça sur le territoire jusqu'à Saint-Florent-le-Vieil, qui commencera le 27 septembre 2023 et qui se terminera le 1er octobre à la Maison Gracq.
Une des spécificités aussi finalement de cette maison, c'est que vous êtes autrice et donc ce sont les auteurs qui prennent, j'allais dire le pouvoir, mais en tout cas la direction pour un temps de cette maison. Est-ce que c'est important que ce soit justement les écrivains qui soient au cœur du processus de cette résidence-là?
Alors c'est vrai que c'est intéressant puisqu'il y a ce dialogue vraiment privilégié avec les auteurs qui viennent y travailler. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a cette discussion précise autour de la littérature et de l'écriture, c'est toujours des moments très intéressants que l'on vit au moment par exemple, des rencontres d'ouverture, lorsqu'arrivent les auteurs et lorsqu'ils en repartent. Là, on voit vraiment le temps d'écriture, le temps de production.
Et comment votre écriture à vous est-elle nourrie par Julien Gracq? Enfin, l'est-elle?
Tout à fait. D'ailleurs, depuis un an que j'y suis, à la maison Gracq, j'ai pu aussi investir la maison. J'habite, par exemple, et je travaille dans le bureau qui était anciennement la salle à manger de la famille. J'ai pu retrouver des traces aussi à travers des témoignages. Et là, justement, j'ai ce livre, hein, qui paraît, La forme du fleuve, où effectivement, cette écriture fragmentaire, poétique, très sensible sur le territoire, m'inspire énormément. Je déploie, en fait, tout cela le long du fleuve, des îles et de tous ces témoignages pour en récolter justement la sève.
Votre ouvrage, donc, vous venez de le dire, La forme du fleuve, va paraître aux éditions Le Mot et le Reste et La Maison, texte inédit de Julien Gracq, sort ces jours-ci aux éditions José Corti. Merci beaucoup, Gwenaëlle Abolivier.
Et merci à vous, Marie Sambier. Affaire à suivre. À présent, nous prenons ce soir la direction de Barcelone, en Espagne, pour évoquer le nouveau boom littéraire sud-américain. Et pour ce faire, nous retrouvons le correspondant de France Culture à Barcelone. Bonsoir, Henri de Laguérie.
Bonsoir, Arnaud.
Alors, comme leurs illustres aînés, parmi lesquels Mario Vargas Llosa, qui vient de faire son entrée à l'Académie française, une nouvelle génération d'écrivains latino-américains a élu domicile dans la capitale catalane.
Oui, ce sont des auteurs qui viennent de toute l'Amérique du Sud. Il y a la colombienne Laura Restrepo, traduite en France chez Calman Levy, l'argentin Rodrigo Fresan, qui vient de publier au Seuil Melville, ou encore l'espoir des lettres chiliennes Paulina Flores. La liste est loin d'être exhaustive. Et tous ces écrivains qui ont choisi de vivre et d'écrire à Barcelone suivent les pas de très grands noms de la littérature, ceux qui ont fait partie de ce qu'on a appelé ici le boom littéraire latino-américain. Un mouvement dont est spécialiste Xavi Ayen. Il est le chef du service culture au journal La Vanguardia.
Les années 60 et 70, Barcelone était la capitale mondiale du boom latino-américain. Parce que ici, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, et José Donoso et beaucoup d'autres écrivains en habitaient. Et ici à Barcelone, ils ont eu la gêne littéraire, et Carmen Balcells. Et elle a été la femme décisive pour l'expansion des auteurs sud-américains. C'est sûr que Paris a été aussi une ville très importante, mais les principaux groupes éditoriaux sont à Barcelone, non, le groupe Planeta, le groupe Penguin Random House. Même aujourd'hui, les écrivains latino-américains, ils savent que pour avoir des succès, ils doivent publier à Barcelone, non, parce que c'est un peu la mecque éditoriale de l'édition en espagnol.
Oui, mais alors, tous ces écrivains, García Márquez, Vargas Llosa, est-ce qu'ils sont ou est-ce qu'ils continuent à Barcelone d'être les références pour cette nouvelle génération d'auteurs hispaniques?
Oui, c'est le cas notamment de l'écrivaine et journaliste Zoraida Peguero. Elle est originaire de Saint-Domingue. Elle s'est installée à Barcelone il y a une dizaine d'années et elle vient de sortir son premier livre, Par ici est passée une luciole, publié seulement en espagnol.
Tous ceux qui écrivent ont au départ été des lecteurs. Et donc à l'époque où j'ai grandi en République dominicaine, la plupart des livres que j'avais entre les mains étaient édités à Barcelone. Je lisais beaucoup García Márquez parce que mon père en était un grand admirateur. Et donc les premiers livres que j'ai ouverts et feuilletés étaient ceux de García Márquez.
Alors dans les auteurs plus confirmés, on trouve le Mexicain Juan Pablo Villalobos. C'est l'auteur de « Personne n'est obligé de me croire », traduit en France chez Buchet-Chastel. Il vit à Barcelone depuis 20 ans. Il a commencé par un doctorat ici en Catalogne en littérature. Il a ensuite trouvé son premier éditeur. Barcelone est pour lui un carrefour, et un carrefour pour tous ces auteurs sud-américains.
Barcelone est un endroit où se rencontrent beaucoup de gens d'Amérique latine. Ici, tu as toujours une excuse pour te retrouver avec des collègues d'Argentine, du Pérou, de Colombie, d'Uruguay ou d'Équateur. Entre nous, on a des conversations et des débats académiques, littéraires ou journalistiques qu'on aurait difficilement en Amérique latine. Parce que là-bas, on voyage peu d'un pays à l'autre. Au Mexique, par exemple, ce n'est pas aussi facile d'avoir le mélange que tu trouves ici à Barcelone.
Oui, mais il y a quand même une question, Henri. Pourquoi Barcelone attire autant ses écrivains?
Eh bien, on l'a entendu, hein, Barcelone est la capitale de l'édition en espagnol. On y trouve des agents littéraires incontournables. Il y a des masters et des doctorats spécialisés en écriture et en littérature comparée dans les universités de la ville. Ces formations attirent les étudiants sud-américains. Mais il y a aussi tout ce qui fait le succès de cette ville méditerranéenne, son climat notamment, la plage et puis une certaine manière de vivre, explique Juan Pablo Villalobos.
Plus que la plage, moi ce qui m'a toujours intéressé de Barcelone, c'est le concept de quartier. Ici, il existe un espace public qui se transforme en espace de rencontre entre voisins, amis ou collègues. Pour moi, c'est très important de marcher à pied. En Amérique latine, à cause de la violence et de la dégradation du vivre ensemble, on a perdu la notion d'espace public. C'est également lié à un modèle qu'on a importé des États-Unis, la privatisation de l'espace public. Là-bas, on sort dans la rue uniquement pour dépenser de l'argent. Marcher à pied est quelque chose de bizarre et c'est pour ça que tu es tout le temps dans ta voiture. À l'inverse, Barcelone m'a offert cette routine de marcher, qui me permet par exemple d'incorporer dans mes livres toutes ces intrigues liées aux rencontres fortuites.
Mais à Barcelone, on sait bien qu'on parle et qu'on défend le catalan. Alors pourquoi Madrid n'est-elle pas la capitale de l'édition en espagnol ?
Et c'est lié à l'histoire récente de l'Espagne, c'est ce que nous dit le journaliste Xavi Ayen.
Madrid, pendant les années 60, c'était la capitale du pouvoir. Et le pouvoir en Espagne, c'était la dictature de Franco. À Madrid, il y avait de la censure. Alors ici, à Barcelone, le milieu éditorial était antifranquiste, était plus proche à la façon de penser, à les idéologies de ces écrivains.
Et malgré la défense de la langue catalane et la tentative ratée d'indépendance en 2017, les auteurs sud-américains se sont toujours sentis à l'aise dans cette Barcelone où l'on alterne catalan et castillan sans difficulté.
C'est sans doute quelque chose de difficile à comprendre pour quelqu'un qui vit à Madrid. Mais nous, les latino-américains, on n'est absolument pas gênés par le catalan. Pour nous, ce n'est pas une contrainte ou un problème. On ne voit pas l'aspect politique de la langue. La Catalogne n'est pas une capitale et entretient une relation problématique avec Madrid, depuis la marge et l'opposition. C'est quelque chose que l'on comprend. On est plus proche de cela que de l'arrogance qu'on note parfois à Madrid.
Et selon l'auteur mexicain, les écrivains latino-américains qui choisissent Madrid sont généralement conservateurs. C'est en tout cas lui qui le dit. Et justement, c'est dans la capitale espagnole, loin de cette Barcelone dans laquelle il a vécu dans les années 70, que Mario Vargas Llosa est installé.
On en déduit ce que l'on veut. Merci Henri de Laguerry pour ce point très complet et à bientôt pour d'autres nouvelles culturelles venues d'Espagne. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France, une émission préparée avec Aïssa Tundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier, Lise Ripoche et Apolline Limosino.